Bienvenue dans ce nouvel enseignement donné par le ministère El Shaddai. Cet enseignement de la parole de Dieu sans compromis vous aidera à grandir spirituellement, à porter du fruit et à prospérer à tous égards comme le veut le Seigneur. Nous en souhaitons une bonne écoute. Que Dieu vous bénisse.
Alors, nous en sommes dans l'histoire d'Abraham. Abraham, cet homme à qui Dieu a donné la plus grande des promesses parmi ceux qui sont venus d'un père et d'une mère. C'est vraiment un homme qui a une destinée, qui a su s'emparer de sa destinée. Et nous sommes en train d'étudier les qualités de cet homme. Et aussi ses erreurs. Parce que nous avons vu que dans, parmi tous les personnages que, dont nous parlons et dont la Bible parle, tous ont leurs points forts, ont réussi des choses super, mais aussi ont fait de graves erreurs. Dieu nous utilise en dépit de nos erreurs. Donc si tu fais des erreurs, eh bien, bienvenue dans le groupe, parce que tu es qualifié pour être utilisé aussi par Dieu. Maintenant, fais attention de ne pas en faire trop souvent. Parce que sinon, là, tu auras de graves ennuis et tu détruiras tout. Quand nous faisons des erreurs, c'est toujours pour nous montrer que nous avons tellement besoin de lui. Ça doit être toujours la leçon de nos erreurs. C'est, tu réalises combien tu dépends de lui, combien tu as tellement besoin de lui, et tu apprends à faire attention à ne plus vouloir dépendre de toi-même. Donc Dieu lui dit, sors, vas-y, tu sors de ta patrie, de la maison de ton père. Et Dieu lui fait des grandes promesses. Ah, c'est formidable, nous aimons tellement tous que le Seigneur nous parle. C'est merveilleux de passer un temps et tu dis, ah, le Seigneur m'a parlé. Oui, ça c'est un moment de gloire. Mais l'important, ce n'est pas ce que Dieu t'a dit, c'est qu'est-ce que tu vas faire avec ce que Dieu t'a dit. Parce qu'il y a tellement de gens qui disent Dieu m'a dit, Dieu m'a dit, Dieu m'a dit. Et finalement, ils n'accomplissent rien dans leur vie. Donc nous avons vu, il obéit, et là il y a une deuxième révélation. Dieu se révèle à lui, mais Abraham avait une qualité. À chaque fois qu'il y avait une révélation, il était dans l'adoration.
Et
sachez-le, Abraham avait très peu de connaissances par rapport à ce que nous avons. Puis il va faire sa première erreur. Il part en Égypte parce qu'il y a des circonstances qui sont difficiles alors que Dieu l'avait placé dans un endroit. Et il revient, Dieu le récupère son erreur et il revient sur place, il revient dans son territoire de destinée. Et je vous ai montré que souvent nous tournons en rond quand nous nous écartons de notre territoire de destinée. Alors ensuite, nous avons vu qu'il va se séparer avec Lot. Et là, on a vu que Abraham n'était pas quelqu'un qui convoitait, un opportuniste. Je vous ai montré que les opportunistes ne réalisent jamais leur destinée.
Le
diable, avec les opportunistes, le diable a un terrain ouvert avec leur chair. Il plonge dans la première opportunité et ils se font avoir.
quelques
années plus tard, vous les retrouvez, ils sont complètement froids.
Et
l'autre était un opportuniste et il va rétrograder, il va failli perdre la vie. En tout cas, il perdra une bonne partie de sa famille.
Et tout c'est bien. Atakaza kubera iyo nyifata atakaza hafi igice cy'umuryango atakaza n'ubutunzi bwiwe.
Abraham se sépare de lui et Dieu se révèle à nouveau à lui.
Abraham umugabo aritandukanya nawe mugabo Imana ngira kumwireka.
À la fin du chapitre 13 pardon, à partir du verset 17, en fait Dieu lui dit voilà maintenant le pays où tu es, c'est le pays que je vais donner à ta descendance, parcours-le, explore ce pays.
Imana ngira kumwirekera mubwira ngo va hasugendura iki gihugu.
Et je vous ai montré qu'il faut passer du temps à rêver les rêves divins.
Pour que ça s'infuse
en vous.
Ça
va donner de l'essence, de l'énergie à tout ce que vous allez faire
après.
Ensuite, on a vu qu'il passe un temps à Mamré à côté d'Hébron. Et là, on a vu que c'était des symboles. Il y avait la communion et la vigueur, la prospérité.
Et je vous
ai montré qu'une erreur commune, quand les gens reçoivent un appel de Dieu, c'est de courir avec cet appel tout de suite.
Et plutôt que
de renforcer leur communion et de développer des valeurs de caractère.
Et ça,
c'est l'erreur commune qu'on voit. Les gens foncent,
et
boum, ils se cassent la tête.
Alors
ensuite, nous avons vu au chapitre 14, Abraham va être obligé de récupérer Lot qui s'est fait enlever. Avec tous les gens de
Sodome.
Et puis nous avons vu quand il revient vainqueur, il se présente devant un roi, c'est Melchisédek, en même temps sacrificateur, et on a vu qui était ce Melchisédek. Cette image de Christ. On voit qu'Abraham aussi lui donne la dîme de tout, et on voit qu'Abraham n'a pas inventé la dîme, que c'est un principe divin.
Et puis
à la fin du chapitre, on voit que Abraham refuse que le roi de Sodome lui donne des biens du butin. Abraham avait beaucoup de sagesse dans ses relations, en tout cas avec ses semblables. Très souvent, avec des gens qui avaient une certaine maturité, Abraham se méfiait.
Et
je vous ai dit, il ne faut pas prendre tout ce qu'on vous donne n'importe comment en disant le Seigneur m'a béni avec ça.
Il
y a des cadeaux qu'il ne faut jamais accepter dans la vie.
Ce ne sera
pas des cadeaux, ce sera des liens avec certaines personnes qui vous coûteront très cher beaucoup plus tard.
Donc,
tout ce qu'on nous donne n'est pas à prendre, frères
et sœurs. Il y a
des choses qu'il vaut mieux refuser.
Alors
on a vu ensuite au chapitre 15 que Dieu va préciser encore la promesse.
Et
Dieu lui promet une descendance et alors Abraham dit oui. Moi, je n'ai pas d'enfant, je suis vieux, maintenant, je suis bientôt fini. Donc, ce que je vois que c'est Eliezer. En fait, il a son plan.
Et
souvent, vous voyez, quand nous ne voyons pas les promesses de Dieu s'accomplir, parce qu'il y a un obstacle, nous sommes en train de réfléchir sur comment Dieu va réaliser les choses.
Et
on a ce mauvais défaut, c'est d'aller essayer d'aider Dieu à réaliser nos
destinées.
Et ça, c'est aussi une erreur classique qu'on voit dans les destinées. Dieu n'a pas besoin de ton aide.
Et
il y a des choses dont il n'a vraiment pas besoin que tu l'aides, que tu essaies de l'aider. Et là, Abraham avait un problème. Et je vous ai dit la semaine dernière, je vous ai dit, mais pourquoi est-ce que Dieu va choisir un couple stérile pour promettre qu'au travers de ce couple, il y aura une descendance où il va y avoir des peuples et des rois qui vont sortir.
Et
bien c'est très simple. Dieu utilisera là où tu es le plus faible pour te transformer et montrer sa gloire. Parce que tu ne pourras pas dire « j'ai fait ça par mes propres forces ». Et c'est comme ça que Dieu opère la plupart du temps. Et il va choisir justement quelqu'un qui aura telle difficulté, tel défi. Et c'est là où Dieu va montrer sa gloire. Et quand les gens réussissent dans leur destinée comme cela, ils disent, mais finalement, moi, je suis pour rien dans cette histoire. Mais souvent, c'est l'erreur que nous faisons de vouloir aider Dieu à réaliser les promesses qu'il nous a faites. Combien de gens ont tout vendu et ont commencé à dire « je sers le Seigneur par la foi » et 10 ans plus tard, ils sont presque morts de faim. Et c'est courant ça. Les gens qui font n'importe quoi sous le prétexte de la spiritualité. Je vais faire ça pour Dieu. J'ai vu des gens se donner, tout donner ce qu'ils avaient, tout mettre à disposition, mais ils n'étaient pas dans le temps de Dieu. Ils n'étaient pas dans ce que le Seigneur leur avait demandé à ce moment-là. Ils ont souffert. Ils ont fait souffrir tout le monde autour d'eux. Et ça n'a pas porté de fruit. Si tu veux réaliser ta destinée, il faut laisser la place à Dieu pour qu'il soit Dieu. Et là où c'est impossible pour toi, là où il y a un grand défi pour toi, c'est là où Dieu va se manifester avec puissance. Et là tu diras, Seigneur, tu es extraordinaire. Je n'ai plus rien à dire, si ce n'est Seigneur, merci. Et là tu lui donnes toute la gloire. Là tu ne vas pas aller te gonfler en disant, oui, c'était Dieu et moi, moi et Dieu, moi. Et Dieu. Donc il a ses plans. Il a ses plans. Abraham a ses plans. Et Dieu lui dit, non, 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 c'est au travers de ta descendance. Et là, Dieu va lui préciser sa promesse d'une façon incroyable. Et il lui montre tellement, il lui montre exactement le territoire qu'il aura. Je vous rappelle que c'était du fleuve de l'Égypte de l'Euphrate jusqu'en Égypte, en passant par toute la péninsule arabe.
Donc du
golfe persique jusqu'en Égypte. C'était immense. Mais on voit que les Israélites n'ont eu qu'une partie de ce territoire. Et c'est les questions qu'on s'est posées. Pourtant, Dieu lui avait fait une promesse. Il scelle cette promesse par une rencontre puissante où Dieu envoie son feu sur le sacrifice qu'Abraham fait. Et alors, là, je vous ai montré aussi, il y a des temps particuliers où Dieu va vous parler et il va descendre puissamment sur vous. Où la promesse vraiment devient précise. Dieu, vous sentez qu'il y a plein de choses qui sont en train de se passer autour de vous. Et alors Abraham devait, à la sortie de cela, être aux anges, comme on dit si bien, être euphorisé. Mais le temps passe. Et le chapitre 16 nous montre qu'Abraham va réfléchir encore à une façon de faire autrement. Et je vous ai montré que dans les destinées, c'est terrible. La plupart des gens n'ont pas compris que le temps pouvait être le meilleur ami. Mais ils en font leur pire ennemi. Soit le temps va être ton meilleur ami, soit il sera ton pire ennemi. Il sera ton pire ennemi si tu es impatient. Parce que tu vas vouloir faire les choses de Dieu. Et une fois, et deux fois, et dix fois. Et Dieu se dira, celui-ci, je ne peux pas facilement l'utiliser. Et tu seras sur la touche, comme nous allons le voir, comme Abraham pendant 13 ans. Et là, Abraham, il se retrouve avec une proposition extrêmement intelligente de sa chère femme. La culture aidant, je vous ai expliqué. Et là, on voit qu'Abraham va céder à une voix pour aider Dieu. Sa femme lui dit, voilà, il y a ma servante. C'est dans la culture, c'était même légal à l'époque. Donc tout le monde faisait ça. Un couple qui n'avait pas d'enfants. On cherchait la servante et le mari avait des enfants au travers de la servante. Et la mère les éduquait comme si c'était son, enfin, la femme les éduquait comme si c'était ses enfants. Et là, je vous ai montré. Parfois, il y a des choses qu'on doit crucifier dans la culture que nous avons eue. Abraham va céder. Sa femme va le pousser à faire ça. Et puis Agar devient enceinte. Et quand elle devient enceinte, elle commence à mépriser la femme d'Abraham. Et Abraham est tombé dans le piège de la chair. Il se retrouve en plein conflit familial. Et sa femme, qui l'a poussé à faire ça, lui dit, en fait, que ni plus ni moins, c'est de sa faute maintenant. Elle se moque d'elle. Et c'est la faute d'Abraham. Et je vous ai montré qu'il y a parfois des gens qui sont conflictuels, qui vous poussent, mais vous êtes responsable. On est responsable de nos actions. Et alors, Abraham va voir, donc il va y avoir cette histoire où Agar va être chassée par Sarah. Et Dieu est obligé parce qu'il est lié avec la promesse. Il a dit au travers de ton sein. Dieu est lié avec sa promesse. Et effectivement, Ismaël, Dieu va devoir lui transmettre une partie des promesses. Et effectivement, nous avons étudié que aujourd'hui, les Arabes, donc les descendants d'Ismaël, ont beaucoup plus de territoire que les descendants
d'Isaac.
Et on va revoir comment Dieu était lié par sa parole. Et je vous ai montré que parfois, il y a des choses qu'on fait dans nos destinées qui restreignent nos promesses. Alors, l'incident Ismaël va être clôturé. Et puis nous avons commencé le chapitre 17, on va continuer. Et il est dit, donc là, le dernier chapitre, le dernier verset du chapitre 16 et puis le premier du chapitre 16 nous en disent long. Abraham était âgé de 86 ans lorsqu'Agar enfanta Ismaël à Abraham. Verset, juste le verset suivant. Lorsqu'Abraham fut âgé de 99 ans, l'Éternel apparut à Abraham.
Abraham
Regardez bien, chapitre 12, chapitre 13, chapitre 14, chapitre 15, chapitre 16 inclus. Cinq chapitres. Ça couvre 10 ans de la vie d'Abraham. Et là, vous avez des révélations de Dieu. Vous avez Dieu qui lui montre un certain nombre de choses. Il y a des choses qu'Abraham fait. Dans sa vie, sa bouche. Mais là, il a fait pourtant des gaffes. On l'a vu. Mais là, il va faire une grosse gaffe. Parce que là, c'était l'objet sur sa descendance. La promesse dépendait de sa descendance. Vous savez, si Abraham avait fait une gaffe financière, bon, ça n'aurait pas eu des incidences sur ses promesses. Mais là, il a fait une gaffe sur sa postérité. Et quand vous faites une gaffe qui concerne vraiment l'objet de votre promesse, ben ça va vous coûter cher. Et c'est souvent ce que l'ennemi essaye de faire dans nos vies. Vous verrez que vous n'aurez jamais de problème de tentation ou quoi que ce soit dans des domaines où vous n'avez pas de promesse. Le combat toujours va être là où vous avez les promesses. C'est là où l'ennemi va essayer par tous les moyens de vous faire chuter. Et c'est exactement ce qui va se passer pour Abraham. Abraham, les promesses étaient sur sa descendance. Et Dieu avait dit, tu auras avec ta femme Sarah un enfant, un fils. Et c'est lui qui héritera de tout. C'est de lui que les peuples, les rois, etc. vont naître. Mais Abraham gaffe dans ce domaine-là. Et on voit bien qu'entre 86 ans et 99 ans, il y a 13 ans qui se passent. Et il y a juste un verset. Dieu ne fait rien, pas de révélation nouvelle, rien du tout pendant 13 ans. Et ça, ça s'appelle assumer les conséquences de ses erreurs. Dieu nous pardonne, Dieu nous donne d'autres chances, mais nous perdons du temps. Abraham a perdu 13 ans. Il était déjà assez vieux quand Dieu lui a fait cette promesse. Là, le défi de la foi allait être encore plus grand. Parce que plus il était vieux et plus aussi Sarah était vieille, moins les chances d'avoir un enfant ensemble existaient. Et là, pendant 13 ans, je pense qu'Abraham a dû regarder les étoiles et les compter les unes après les autres. Et il a dû regarder la poussière de la terre et il a dû compter des milliards de grains de poussière pendant 13
ans.
Il a dû en compter des grains de sable. Il a dû penser à ce que Dieu lui avait dit. Il a dû certainement se culpabiliser aussi d'avoir fait Ismaël. Il a dû se poser beaucoup de questions. Et d'un seul coup, Dieu à nouveau se révèle à lui. Vous savez, Dieu parfois est étonnant. Même parfois quand nos vies peuvent être brisées ou avoir des gros problèmes, Dieu reste Dieu. L'homme a besoin des fois de, comment on dit en anglais, recovery, je ne sais plus comment on dit en français, restauration, oui, c'est une sorte de restauration. Et ça demande parfois du temps pour l'homme. Et Dieu, après, redonne une chance. Si vous étudiez la Bible, vous verrez que Dieu a toujours donné plusieurs chances à chaque personne qui l'ont servi. Dieu n'est pas le Dieu d'une seule chance. Moïse, lui, a été 40 ans dans le désert, nous l'avons vu. Il a tué l'Égyptien. Dieu a vu qu'il serait impossible de se servir de Moïse de cette manière-là. Il allait tout casser. Il est resté 40 ans dans le désert. À pourrir dans un coin. Et quand Dieu se révèle à nouveau à lui, et franchement, il dit à Dieu, cette vieille histoire, je ne veux même plus en entendre parler.
Et c'est là
où Dieu lui dit, maintenant tu es prêt.
Bien.
Dieu est étonnant parfois. Mais c'est comme ça qu'il agit. Parce qu'il a besoin des fois de nous purger, de nous nettoyer complètement de certaines choses qui nous empêchent d'être utilisables par lui. Et souvent, c'est ce que nous n'acceptons pas. Moi, je connais des gens qui n'arrivent pas à accepter que Dieu ne les utilise pas comme ils voudraient être utilisés aujourd'hui. Et cela crée une frustration chez eux terrible. Et ils bougent et ils s'agitent et ils font n'importe quoi. Ce n'est pas la solution. La solution, c'est de se dire si Dieu ne peut pas m'utiliser, c'est que j'ai un problème à régler, ce qui est sérieux. Et là, tu cherches la face de Dieu. Et tu dis, Seigneur, pourquoi ? Qu'est-ce qui ne va pas en moi ? Plutôt que d'aller dire, c'est à cause de l'autre, c'est à cause de l'autre, ou c'est vrai, j'ai démarré ça, mais je n'ai pas eu de chance, il y a eu tel problème, et puis vous savez, blablabla. Non, si Dieu t'a parlé, et tu échoues constamment sur 10 ans, c'est qu'il y a un problème. Je
ne
te dis pas que si Dieu t'a parlé, ça va démarrer et ça va être dans les hauteurs du jour au lendemain. Mais il y a un moment où ça doit percer. Il y a un moment où les choses doivent changer. Il y a un moment où il y a quelque chose qui doit se produire. Mais des fois, nous forçons tellement que nous gaffons. Et là, quand nous gaffons sérieusement, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on est là, on attend. Et Abraham a perdu 13 ans. Les meilleurs bouffeurs de temps dans les destinées, ce sont les gaffes qu'on fait et dont on n'arrive pas à récupérer. Ça, ce sont les meilleurs bouffetons. Ça te mangera des années. Par exemple, il y a des gens qui sont sous la culpabilité pendant des années parce qu'ils ont péché.
Et
ils n'arrivent pas à se pardonner. Et il n'y a pas moyen, ils ne reviennent pas, ils n'arrivent pas à revenir. Parce qu'ils vivent constamment sous une espèce de culpabilité qui les amène mais finalement à ne plus avoir une relation avec le Seigneur qui soit bonne. Et à chaque fois, le diable leur dit, oui, tu vois, mais tu as fait ça. Et pendant des années, ils restent sur la touche. Il y en a d'autres, au contraire, ils font une gaffe et ils disent non, c'est pas de ma faute, c'est la faute des autres, c'est la faute de l'autre. Ils n'assument pas leur responsabilité. Et tant que tu n'assumeras pas, Dieu ne peut pas t'utiliser. Parce que plus nous avons, je dirais, plus nous sommes dans les hauteurs avec Dieu, plus quand nous faisons une gaffe, ça a des conséquences. Donc Dieu est sage, Dieu ne peut pas nous donner trop de choses à faire. Si déjà tu fais des gaffes pour les moindres petits trucs que Dieu te donne à faire, alors s'il te donnait beaucoup plus d'un seul coup, ça serait une catastrophe. Et Dieu le sait. Je vous rappelle qu'il y a un temps pour faire confiance à Dieu. Mais il y a un temps où Dieu doit nous tester et nous faire confiance. Et rappelez-vous toujours cette parole, je crois que c'est Luc 16:10, mais je ne suis pas sûr. C'est celui qui est fidèle dans les petites choses, l'est aussi dans les grandes. La fidélité va être testée. Mais les gens n'aiment pas ça, ils veulent tout de suite les grands trucs. Celui qui est fidèle dans les moindres choses l'est aussi dans les grandes. Celui qui est injuste, c'est-à-dire infidèle, c'est-à-dire qui est incapable de gérer ce que Dieu lui a donné à la base, il ne peut pas gérer de grandes choses.
Et
les gens ont du mal avec ça. Alors Dieu va se révéler à lui d'une façon incroyable à l'âge de
99 ans.
Et Dieu va faire une alliance avec lui. Là, il y a encore des précisions et des précisions. Parce qu'entre-temps, Abraham a compris son erreur. Mais là, il va douter sur ce que Dieu va lui dire. L'Éternel apparut à Abraham et lui dit, « Je suis le Dieu Tout-Puissant, El Shaddai, celui qui pourvoit, celui qui nourrit comme une maman. »
Marche
devant ma face et sois intègre. C'est comme si Dieu lui disait, tu vois, pendant 13 ans, tu as pourri sur pied, entre guillemets. Mais c'est ce que tu pensais. Mais viens, je suis là. Moi, je t'ai pas oublié. Et ça, c'est vraiment une caractéristique de Dieu. Des fois, tu peux être là en train d'être, comme on dit en français, mariné dans ton jus. Ça veut dire que tu es là, tu n'avances pas, tu es frustré pendant des années. Et puis, tu penses que finalement, Dieu t'a oublié. Puis un jour, le Seigneur te dit, hey, « Steve, je
ne
t'ai pas du tout oublié. Maintenant, c'est bon, c'est le temps. » Alors là, tu es comme ça, tu es étonné. Parce que pendant des années, Dieu a été silencieux. Dieu n'a rien dit pendant toutes ces années.
Et
quelque part, tu te dis, « Bon, bah, si Dieu ne me dit rien, c'est parce que j'ai fait un Ismaël. » Vous savez, nous les prédicateurs, dire faire un Ismaël, c'est pas faire un enfant hors mariage. Quand on dit ah, lui risque de faire un Ismaël. Ça veut dire qu'en fait, tu vas vouloir faire la volonté de Dieu par tes propres forces. Tu es en dehors du temps de Dieu. Tu sais ce que le Seigneur t'a dit, mais tu es en train de vouloir réaliser le plan de Dieu par toi-même. Verset 2. Donc Dieu lui tend la main. J'établirai mon alliance entre moi et toi. Pas trop vite, verset 2, retour, merci. J'établirai mon alliance entre moi et toi et je te multiplierai à l'infini. Vous voyez, Dieu lui répète, ça faisait longtemps qu'il ne lui avait pas dit ça. Ça faisait au moins 13 ans. Alors que rappelez-vous, Dieu lui avait parlé plusieurs fois sur ça. En 10 ans, les 10 premières années. Mais là, pendant 13 ans, Dieu, rien du tout. Et là, il lui dit, j'établirai mon alliance. Entre moi et toi. Et je te multiplierai à l'infini. Verset 3. Abraham tomba sur sa face et Dieu lui parla en disant. Vous voyez, parce que Abraham, il est choqué, il dit, mais Seigneur, ça fait 13 ans que tu me dis rien. Et là, d'un seul coup, tchou.
Abraham ngo arapfukama arunama umva arakangutswe nawe biramutangaje yikubise.
Alors quelque part, il est un peu confus. Vous savez, Dieu aime bien nous confondre parfois. Tu es là, tu te sens un peu pas très bien. Tu
n'es
pas super en forme spirituellement. Et tu viens, tu commences à louer Dieu, à l'adorer. Et
d'un
coup, la présence de Dieu vient d'une façon extraordinaire. Seigneur, pourquoi tant d'amour en ce moment? Ça c'est Dieu. Si vient et qui te surprend.
Tu
dis, il te dit, tu vois, je t'aime.
Et les gars, oui.
Et tu es là. Ouais, bon Seigneur, mais en ce moment, c'est pas ça.
Non.
Et là, Abraham, il était sous le choc. 13 ans de silence, et d'un seul coup, Dieu, boum, arrive. Voici mon alliance que je fais avec toi. Tu deviendras père d'une multitude de nations.
Oh. Ce
n'était pas vraiment une nouvelle révélation. Dieu lui avait déjà dit ça. Verset 5. On ne t'appellera plus Abraham, mais ton nom sera Abraham, car je te rends père d'une multitude de nations.
Alors,
qu'est-ce qui se passe ici? Dieu change son nom. Il passe d'Abraham, ou certains disent Abraham, mais c'est tellement moche, Abraham, je préfère dire Abraham. Et il passe, Dieu lui donne un nouveau nom et il dit, tu vas t'appeler Abraham. Et il y a une différence entre les deux. Bon, une légère différence entre la signification. C'est très léger, il faut dire ce qui est. Ça veut dire que tu deviendras, c'est père d'un grand nombre, d'une foule de nations, Abraham. C'était légèrement différent du mot Abraham, de son nom qu'il avait. Père d'une multitude. Alors, quelle est la différence entre Abraham et Abraham? Bon, alors, il faut que vous sachiez quand même quelque chose d'intéressant dans l'hébreu de l'Ancien Testament. Il faut que vous sachiez que, effectivement, l'Ancien Testament a été écrit en hébreu. Mais que dans l'hébreu original, il n'y a pas de voyelles, il n'y a que des consonnes.
Je
vois qu'en Kirundi, vous êtes habitué. Alors, par exemple, si je regarde la différence à Abraham, si je prenais que les consonnes.
Abraham,
on prend le premier nom qu'il avait. J'enlève les deux A. Les A, c'est les voyelles. Donc, dans l'hébreu original, ça s'écrirait BRM. C'est pas B-M-E-W-E, c'est BRM. C'est tout. Il n'y aurait pas les A. C'est comme ça que l'hébreu original, c'est comme ça d'ailleurs que les traducteurs ont un texte où il n'y a pas de voyelles, il n'y a que des consonnes. Alors, vous comprenez que d'abord, pour traduire l'hébreu ancien de l'Ancien Testament, il faut être un spécialiste. La deuxième chose, évidemment, c'est que si vous avez juste BRM, vous pouvez dire... Bon, ça sera brom ou bromo, broma, bromu, brumo, brom, 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 tout ce que vous voulez. Tout dépend de la voyelle qu'il y aurait derrière ou devant. Ça va dépendre. Alors vous allez dire, d'accord, comment ils pouvaient savoir? Eh bien, l'hébreu se transmettait pour la diction, c'est-à-dire le fait de parler. En fait, on apprenait, quand on voyait trois consonnes, par exemple, on disait ça, c'est Abraham. Ou
Abraham,
trois. On apprenait aux gens à lire comme ça. Dans l'hébreu ancien, on devait jouer à la devinette sur les consonnes. Les voyelles, Alors, c'est simplement pour vous dire. Alors, quand on regarde les consonnes entre Abraham ou Abram et Abraham.
Merci,
il l'a déjà dit. Donc, vous voyez bien que la différence, si vous prenez que les consonnes entre Abram et Abraham, vous enlevez toutes les voyelles, la seule différence, au lieu d'avoir BRM, là vous avez BRHM.
Urumva ico gihe ntugifise B na R na M gusa ushizemo B na R na H na M.
Alors c'est quoi la différence entre les deux noms au niveau des consonnes?
Ubudasa rero buri hehe kubijanye n'aya majambo aya izindome.
Il y en a une qui en a trois, l'autre qui en a quatre. L'autre nom en a quatre.
Indome ni zitatu ahandi ni zine.
La différence c'est quoi? C'est le H. Vous êtes d'accord?
Ubudasa buri hehe buri kuri he yonyene.
Et en fait,
aha rero
c'est Dieu qui donne ce nom-là à Abraham. Avec une signification, je vous ai dit, très légèrement différente. Multitude de nations. Et le H. Pauvre Steve, aujourd'hui, c'est dur. Que le Seigneur te bénisse. Il en aura fait des pirouettes, des galipettes. Pour interpréter, mais c'est super. Alors, la différence, c'est le H. Et où est-ce que Dieu a trouvé ce H? Eh bien, Dieu va lui donner une partie de son nom. Quand vous avez, par exemple, le nom de Dieu qui est traduit par « éternel » en français, partout vous avez le mot qui a été traduit par éternel, l'éternel parla à Moïse, l'éternel apparu, l'éternel. En fait, ça vient d'un mot hébreu. Et ce mot hébreu, c'est YHWH.
Nijambo ye he we.
Ah Stevie, c'est bien. Et en fait, Dieu a pris une partie de son nom.
Il
dit, je fais une alliance avec toi. Et il l'a inséré dans le nom d'Abraham pour faire Abraham. Remets le YHWH, merci. La diapo d'avant, merci. Vous voyez, YHWH. Et là, on ne savait même pas comment ça se prononçait. Enfin, on ne sait plus comment ça se prononce. Certains prononcent ça Yahweh, parce qu'il faut rajouter des consonnes, parce que vous n'allez pas dire YHWH. Mon nom est YHWH. On va dire, le nom de Dieu est un code secret.
Non,
dans l'hébreu, ça a une racine, la racine du verbe être. Je suis. Littéralement, YHWH, ça veut dire celui qui est, qui existe par lui-même, en gros. C'est ça que ça veut dire. Celui qui est. Ça veut dire celui qui n'a jamais été créé. Celui qui existe par lui-même. Et le seul qui existe par lui-même, c'est Dieu. Parce que toi, tu existes parce qu'il t'a transmis la vie. Moi, j'existe parce que j'ai reçu aussi la vie, on m'a transmis la vie. Mais Dieu, personne ne lui a transmis la vie. Il existe par lui-même. Et c'est pour ça que Dieu s'est révélé à Moïse comme ça, comme Yahweh, celui qui, celui, je suis celui qui suis, celui qui est.
Nuko Imana yeretse Mose aramubwira ngo ndi Yahweh ndi uriho
Et c'est pour ça aussi que les Israélites étaient très énervés contre Jésus. Parce que Jésus, par exemple, leur a dit, avant qu'Abraham fût, je suis. Et là, ça les énervait, il s'est dit, quoi? Il est en train d'utiliser la même expression que nous connaissons, dans, avec laquelle il s'est révélé à Moïse. Celui qui existe par lui-même. Qui n'a jamais été créé. Et Dieu va donner une partie de son nom. Abraham, le H. Il va dire, tu ne t'appelleras plus Abraham.
Et
tu vas t'appeler Abraham.
Tu
vas porter une partie de mon nom. Parce que Dieu voulait lui montrer qu'il y avait une alliance, une union maintenant entre eux. Lui, Dieu et Abraham. Dieu a partagé une partie de son nom avec Abraham pour faire Abraham. Et ça devenait une alliance éternelle. C'est ce que Dieu a fait avec Abraham. Et ce jour-là, c'était un jour particulier. Un jour très particulier que Abraham va vivre. Verset 6. Je te rendrai extrêmement fécond. Je ferai naître de toi des nations, des rois sortiront de toi. J'établirai mon alliance avec toi et ta descendance après toi et dans toutes leurs générations. Ce sera une alliance perpétuelle en vertu de laquelle je serai ton Dieu et celui de tes descendants après toi. Je te donnerai et à tes descendants après toi le pays dans lequel tu viens d'émigrer. Tout le pays de Canaan en possession perpétuelle, et je serai leur Dieu. Dieu dit à Abraham, toi tu garderas mon alliance, toi et tes descendants après toi, dans toutes leurs générations. Voici comment vous garderez l'alliance que je traite avec vous, et avec ta descendance après toi, tout mâle parmi vous sera circoncis. Vous circoncirez comme un signe d'alliance entre vous et moi. À l'âge de 8 ans, tout mâle parmi vous sera circoncis dans toutes vos générations, qu'il soit né dans la maison ou qu'il soit acquis à prix d'argent, de la part d'un étranger qui n'est pas de ta descendance. On devra circoncire celui qui est né dans ta maison et celui qui est acquis avec ton argent. Ce sera dans votre chair la marque d'une alliance perpétuelle. Un malin circoncis qui n'aura pas subi la circoncision dans sa chair sera retranché du milieu de son peuple et il aura rompu mon alliance. Dieu dit encore à Abraham, pour ce qui est de ta femme Sarai, tu ne l'appelleras plus Sarai, mais son nom sera Sarah. Il y a très peu de différence entre les deux dans l'hébreu. Je la bénirai et je te donnerai d'elle aussi un fils. Je la bénirai et elle donnera naissance à des nations, des rois de plusieurs peuples sortiront d'elle. Abraham tomba face contre terre. Ça c'est la deuxième fois, mais ça ne va pas être sur la même chose. Il rit en son cœur, naîtra-t-il un fils à un homme de 100 ans? Et Sarah, âgée de 90 ans, accouchera-t-elle? Puis Abraham dit à Dieu, « Oh, qu'Ismaël vive devant ta face !» Mais Dieu dit, « Certainement, ta femme Sarah va te donner un fils, c'est sûr, c'est ça que ça veut dire. Et tu l'appelleras Isaac. » Vous savez ce que Isaac veut dire? Ça veut dire « rire ». Dieu a de l'humour. Il va dire à Abraham, « Puisque tu as rigolé, très bien, tu vas appeler ton fils « rire ». Waouh! Alors à chaque fois, « Hey, rire! Viens ici, rire !» Et Abraham devait se rappeler, qu'est-ce que j'ai pas dit à Dieu ce jour-là? Qu'est-ce que j'ai pas fait devant Dieu? J'établirai mon alliance comme une alliance perpétuelle avec lui et à sa descendance. Alors regardez bien, à l'égard d'Ismaël, je t'ai entendu, je le bénirai et je le rendrai fécond et je le multiplierai à l'extrême. Il engendrera 12 princes, c'est les 12 princes arabes qui ont donné toute la naissance au peuple arabe. Et je ferai de lui une grande nation. Mais en ce qui concerne mon alliance, je l'établirai avec Isaac et Sarah te donnera à cette époque-ci de l'année prochaine. Lorsqu'il eut achevé de lui parler, Dieu s'éleva au-dessus d'Abraham. Alors ici, il y a beaucoup de choses. Une fois, Dieu va faire alliance, il crée une alliance avec Abraham, mais il lui dit, en fait, ta descendance, quand Dieu lui dit ta descendance, c'est ta vraie descendance. Vous savez, parfois, il y a des choses qu'on appelle des choses de Dieu qui ne sont pas de Dieu. Est-ce qu'Ismaël venait de Dieu?
Bega Ishmael yava ku mana.
Non.
Oya.
Mais il était attaché à la promesse.
Mugabo nubwo byaruko yarafatanye n'isezerano.
Dieu était lié à sa promesse.
Imana yari ifatanye n'isezerano yatanze.
Et la promesse va être partagée entre deux personnes.
Hanyuma isezerano ricarisangirwa n'abantu babiri.
À Isaac.
Isaka.
Il va lui dire bah ça sera Isaac et sa descendance, ça sera sur le territoire de Canaan.
Isaka n'uruvyaro rw'iwe babwirwa yuko bazoba mu gihugu cy'Kanani.
C'est-à-dire la Palestine.
Niho niyo Palestina y'uno munsi.
Tout le territoire d'Israël aujourd'hui est un peu plus élargi.
Ajya igihugu cha Israël nahijya yaho gato.
Mais rappelez-vous d'une chose, la promesse de Dieu au départ, c'était de l'Euphrate, c'est-à-dire du golfe Persique jusqu'à l'Égypte et avec toute la péninsule arabe en dessous. Qui n'était pas la péninsule arabe de l'époque.
Muntango Imana ikihamwe ikemubwira ngo hagendure hari kuva ku ruzi Euphrate kumanuka gushika muri Egiputa uciye mu bihugu abarabu byinshi nka byose
babaho. Dieu a donc limité.
Imana ravuga ngo yaragabanije
le territoire de la promesse.
Igihugu cy'isezerano
au fils de la promesse.
Ku mwana w'isezerano.
Au fils de la promesse.
Ku mwana w'isezerano.
Là où Dieu avait parlé.
Ahimana yari avuze.
Là où Dieu avait dit ça va se passer comme ça.
Ahimana yari avuze ngo nuko bizogenda naha.
Quand l'homme utilise d'autres moyens,
eh
bien Dieu va être obligé de séparer une partie de sa promesse. Et c'est exactement ce qui s'est passé avec la descendance d'Abraham. Les Juifs ont envahi le territoire de la Palestine, le
Canaan.
Donc la petite bande là à gauche là, que nous connaissons. Et l'immense territoire qui reste, vous voyez du golfe Persique à droite, là la mer que vous voyez à droite, tout en bas il y a toute la péninsule arabe, jusqu'en bas au sud, et jusqu'en Égypte, et jusqu'en haut de l'Euphrate, ça va être les descendants d'Ismaël. Dieu est bon. Mais Dieu est lié par ses promesses. Dieu a dû donner quelque chose à Ismaël, à la descendance d'Ismaël. Parce que Abraham avait fait Ismaël. Et vous savez que les Arabes et les Juifs se battent encore aujourd'hui. Ça a toujours été la bataille entre eux. Et les Arabes veulent toujours détruire Israël. Pourtant, ils sont demi-frères, entre guillemets. Ils sont sortis d'Abraham. Le fils de la promesse s'était attaché aux conditions divines. Donc, rappelez-vous toujours d'une chose, Dieu peut vous faire une promesse. Et vous pouvez passer complètement à côté alors que vous essayez de réaliser la promesse. Parce que vous faites ça non pas d'une manière divine, la façon dont Dieu veut que vous fassiez les choses. Et à ce moment-là, il y a une grande partie de la promesse qui ne se réalisera pas dans le cadre où Dieu vous a parlé. C'est pour ça, frères et sœurs, il faut faire très attention dans nos destinées. Laissez Dieu être Dieu dans vos vies. Ça, je ne cesserai de le répéter. Parce que franchement, je vois tellement de gens qui loupent leur destinée à cause de ça. Ils sont en train de faire des choses en pensant que c'est comme ça que Dieu doit faire ça dans leur vie. Et ils se trompent tellement. Et ça se passe tellement mal. Ils sont là, ils essaient de s'auto-convaincre que c'était bien Dieu qui était dans le coup. Mais Dieu n'était pas dans le coup. Et quand Dieu n'est pas dans le coup, y a des difficultés. Alors, Dieu va lui donner le signe de la circoncision. Et Dieu, toujours, quand il fait alliance quelque part, il y a toujours un signe. Dieu fait des promesses.
Il
dit, moi je te donne ça, mais toi, il va falloir que tu fasses ça. Et quand il y a des promesses et qu'il y a une alliance, il y a toujours quelque chose qui se passe. Alors la circoncision, c'était un signe d'appartenance au peuple de Dieu.
Et eux, c'était
dans la chair.
Ariko bobo hari mu buryo bw'umubiri.
Le prépuce du sexe de, du garçon, on l'enlevait.
Gukebwa.
Il n'a peut-être pas le vocabulaire pour ça.
Il avait pas bien gusobanura mu kirundi gukebwa. Abandi bavuga gusiramugwa.
Et en fait, c'était un signe d'appartenance au peuple de Dieu de l'époque. Aujourd'hui, nous savons que la circoncision n'est pas quelque chose de naturel dans la chair. Mais le signe d'appartenance à Dieu pour nous est un signe invisible.
Et
nous savons que c'est la nouvelle naissance. La nouvelle naissance dans la parole de Dieu, dans le Nouveau Testament, est comparée à une circoncision du cœur.
Il
y a plusieurs passages qui nous le montrent. On va regarder brièvement Romains chapitre 2,
versets
28 et 29. C'est le signe d'appartenance. Ça nous éclaire beaucoup d'ailleurs sur le passage de Romains, parce qu'il y a des gens qui ne comprennent pas ce passage de Romains. Le juif n'est pas, le juif c'est l'idée, celui qui appartient au peuple de Dieu, c'est ça que ça veut dire. Ce n'est pas celui qui en a les dehors, c'est-à-dire l'extérieur, l'apparence extérieure, et la circoncision, ce n'est pas celle qui est visible dans la chair, verset 29. Mais le juif, c'est-à-dire celui qui appartient au peuple de Dieu, selon les critères divins, c'est celui qui l'est intérieurement, et la circoncision est celle du cœur. Selon l'esprit, ce n'est pas une bonne traduction, c'est dans l'esprit, dans la nature spirituelle, et non selon la lettre. La louange de ce juif, c'est-à-dire de celui qui appartient au peuple de Dieu, ne vient pas des hommes, mais de Dieu.
Nuko mu buryo bw'impwemo atari uko mu buryo bw'inyuguti umeze atyo ntashimwa n'abantu ariko ashimwa n'Imana.
Alors le comment dire le verset 11 du chapitre 4 de Romains maintenant. Romains 4:11 nous en parle aussi. C'est important que vous sachiez de quoi veut-on parler dans le Nouveau Testament. Il est dit, et il reçut en parlant d'Abraham le signe de la circoncision comme sceau de la justice qu'il avait obtenu par la foi quand il était incirconcis, afin d'être le père de tous les incirconcis qui croient, pour que la justice leur fût aussi imputée. L'idée, bien sûr, ici, c'est de montrer que, en fait, Abraham a cru à Dieu. Il a fait ses erreurs. Il a été purgé de ses erreurs. Il a compris ses erreurs. Il a assumé ses responsabilités. Et Dieu lui a donné un signe pour dire, c'est vrai, tu es un homme. Mais mon alliance est une alliance éternelle. J'ai promis, je vais réaliser. Malgré le temps qui passe, malgré ton corps qui est détruit de plus en plus, qui vieillit, malgré celui de ta femme aussi, j'ai fait une promesse et je vous donne un signe. Et ce signe, vous le suivrez tout le temps.
Ce
sera un signe d'appartenance. Comme quoi vous êtes des gens qui croyez. Vous croyez. Vous êtes des croyants. Et à partir de ce moment-là, j'ai un terrain pour pouvoir accomplir des promesses. Donc Dieu lui donne ce signe, la circoncision. Et le peuple juif va pratiquer cela. Et il y a eu des moments dans le désert où il y avait toute une génération d'ailleurs qui n'était pas circoncis et Dieu a dû se fâcher un peu et leur dire c'est vraiment le temps de circoncire tout le monde. Alors, Dieu a voulu au travers d'Isaac qui va naître, Faire une descendance qui va garder sa connaissance. L'idée, bien sûr, va être de garder la connaissance de Dieu sur la terre au travers d'un peuple. Le peuple de Dieu, le peuple d'Israël, c'est le peuple qui a été choisi par Dieu pour garder la connaissance de Dieu sur la terre et la répandre. C'était les deux missions du peuple de Dieu. Garder la connaissance de Dieu, c'est-à-dire être un peuple qui vraiment connaît le vrai Dieu vivant, mais aussi répandre cette connaissance. Et malheureusement, ils ont échoué dans leur mission. Mais Dieu a fait naître Jésus au travers du peuple d'Israël. Israël a été la pépinière pour que Jésus puisse venir. Et au travers de cela, que si la promesse de se multiplier comme le sable, rappelez-vous la promesse terrestre, Israël terrestre, s'accomplissait au travers du peuple d'Israël, c'est-à-dire des descendants selon la chair d'Abraham, la promesse aussi d'être aussi nombreux que les étoiles, c'était la promesse céleste, puisse s'accomplir au travers du peuple juif. Et là, nous savons que ça concerne l'Église. Et ça a été accompli au travers de Christ. Mais rappelez-vous que le peuple d'Israël a été le berceau du christianisme. C'est au travers du peuple juif que la grâce est venue. Au travers de Jésus. Les premiers serviteurs de Dieu étaient des juifs. Les premiers à naître de nouveau étaient des juifs. Et ils ont commencé à répandre la bonne nouvelle de Christ dans le monde. Et après, ce n'est plus eux qui ont continué à perpétrer, à continuer à répandre cette connaissance de Christ. Alors, Dieu parle à Abraham. On a vu, il change son nom. Ensuite, il parle à Sarah, il change son nom un petit peu aussi, pas beaucoup. Il y a juste une différence entre princesse et ma princesse. Sarah, ça veut dire princesse. Et Sarai, ça veut dire ma princesse.
Oui,
il y a une légère différence ici.
Alors,
Dieu promet un fils. En fait, il lui promet quoi? La guérison de sa stérilité. En fait, une double guérison. Parce que le premier problème que Sarah a toujours eu avec Abraham, c'est qu'il y avait une stérilité. C'est-à-dire qu'elle devait avoir un problème, soit d'une maladie, ou soit d'une malformation, ou soit en tout cas un problème qu'elle avait sur sa stérilité. Puisqu'ils n'ont jamais pu avoir d'enfants, alors qu'à l'époque, ils étaient en âge d'avoir des enfants. Mais là, Dieu va faire un double miracle. Parce que là, non seulement Sarah était toujours avec des problèmes de stérilité, comme quand elle était jeune.
Mais
encore en plus, elle était ménopausée, c'est-à-dire qu'elle, normalement, avec la vieillesse, elle ne pouvait vraiment plus avoir
d'enfants.
Donc, en fait, ce qui s'est passé, c'est que là, Dieu va être obligé de faire un double miracle. Et le Seigneur promet, justement, fait une promesse extraordinaire. Et là, Abraham, dans son cœur, parce que là, il avait affaire à Dieu en face de lui, la parole de Dieu nous dit que dans son cœur, il va rigoler, verset 17. Et puis, finalement, il va sortir ce qu'il ne devrait pas sortir, dire ce qu'il ne devrait pas dire.
Il va
dire qu'Ismaël vive devant ta face.
Dans le
sens où, bon, bah, un peu comme Moïse, quoi. C'est une vieille histoire, tout ça que tu me racontes,
Seigneur.
Vous savez, Dieu est quand même, Dieu est tenace. Hein. Il est vraiment, quand il a promis, il a promis.
Hein.
Souvent, il y a des obstacles comme ça que nous, les hommes, nous mettons des fois nous-mêmes pour, contre nos promesses. Mais Dieu va dit non, non. Elle va avoir un bébé. Imaginez-vous déjà quand une dame a 40 et quelques années, 45, ou des fois elle peut, certaines dames peuvent avoir des enfants un peu plus tard que 45, voire 50 ans.
On la regarde.
C'est le tien ou c'est celui de ta fille? Oui, les gens vont le dire discrètement, mais ils vont le dire. Ou ils pensaient tellement fort que c'est comme s'ils le disaient. Et là, Abraham, dans sa tête, ça a dû faire boum, comme ça. Il voyait lui qui était déjà ridé. Déjà des années avant, rappelez-vous, il disait « Oh, ça va être Eliezer, mon successeur. » Il se voyait déjà mort. Vous savez qu'Abraham a vécu jusqu'à l'âge de
175
ans. Là, il a seulement, entre guillemets, 100 ans. Imaginez-vous, il va vivre encore 75 ans après ça. Mais Dieu lui dit non, non, non. Ta femme va avoir un enfant. 90 ans. Adieu. Vous savez, quand le Seigneur a vraiment promis quelque chose, il promet quelque chose. Et Dieu lui dit, certainement ta femme Sarah va te donner un fils, c'est sûr, c'est ça, ça veut dire, c'est, certainement ça veut dire, c'est sûr, c'est ce qui va se passer.
Et
oui, tu l'appelleras comment? Je vais même te donner son nom, tu vas l'appeler rire, puisque tu as rigolé. J'établirai mon alliance comme une alliance perpétuelle avec lui et sa descendance après lui.
Alors verset
20, il nous a dit, à l'égard d'Ismaël, je t'ai entendu, je te bénirai, je le rendrai fécond, je le multiplierai à l'extrême, etc. etc. Et en fait, on voit ici que Dieu donne une partie des promesses à Ismaël, mais verset 21, en ce qui concerne mon alliance, vous voyez, là Dieu répète bien, mon alliance, verset 21, je l'établirai avec Isaac, que Sarah te donnera à cette époque-ci de l'année prochaine.
Ngo kandi kuvya Ishmael ndakumviye raba ndamuhaye umugisha kandi nzomuha kurondoka ndamugwiza cyane azovyara abatware 12 kandi nzomuhindura ubwoko bukomeye ariko isezerano ryanje nzorikomeza na Isaka uwo muzovyarana na Sara.
Alors c'est intéressant parce que Dieu lui dit mon alliance, en ce qui concerne mon alliance.
Ngwariko isezerano ryanje Imana musubiramo ati isezerano ryanje.
Entre guillemets, pas le truc que tu as bricolé.
Là où
je t'avais parlé au début, entre toi et Sarah, je t'avais fait des promesses. Mais t'as bricolé et ton bricolage, on va en récupérer une partie, obligé. Mais le cadre de ma promesse reste celle-ci, c'est ça que Dieu lui disait. C'est Isaac qui lui va vraiment hériter de la promesse, de ma promesse, de mon alliance. Et Dieu lui répète encore. Il lui dit, Sarah va t'enfanter à cette époque de l'année prochaine. Lorsqu'il eut achevé de lui parler, Dieu s'éleva au-dessus d'Abraham. Je ne sais pas combien de temps Abraham est resté dans cet endroit. Il a dû voir le Seigneur partir. Et il s'est dit, maintenant, il faut que j'aille voir Sarah. Bon, chère Sarah, nous allons aller au restaurant Ubuntu ce soir. Je voudrais te parler. Allô, restaurant Ubuntu. Oui, nous allons venir avec Sarah ce soir. S'il vous plaît, mettez-nous dans un coin où personne ne peut nous entendre échanger quoi que ce soit. Préparez-nous le meilleur repas que vous avez, je paierai un supplément. Et surtout, vous prévoyez une chaise très solide. Et aucun obstacle si jamais quelqu'un se renverse sur sa chaise. Devant cette nouvelle que je vais lui annoncer. Alors Sarah, Abraham amène sa femme
Abraham.
À l'hôtel Ubuntu. Nous sommes auprès de la plage. Tu vois le sable ici. Il y a du beau sable partout. Oh, ça me rappelle une promesse que j'ai reçue il y a bien longtemps. Ah, je ne sais pas comment il lui a annoncé, mais ça a dû être
difficile.
Mais il a dû lui annoncer. Cette promesse du Dieu de l'impossible, du Dieu qui a parlé et il va honorer sa promesse.
Vous
voyez, malgré les temps difficiles, et là on peut dire que même Abraham il a douté. Dieu lui a dû lui parler, non, l'année prochaine ta femme va avoir un fils. Et là ça
ne
sera pas un bricolage. Ça
ne
sera pas quelque chose que tu auras bricolé.
Ce
sera ce que je t'ai promis.
Wow.
Et vous voyez, là, Abraham n'aura pas besoin de faire une grande intervention. Alors je sais qu'il y en a certains de vous qui vous disent, quand même, comment ils ont pu encore à cet âge-là. Je vais vous dire la réponse. Vous allez suivre les cours de Placide de Christine et vous saurez tout sur ce qu'il faut. Mais ça, par contre, ça reste un mystère, puisque en général, à cet âge-là, les désirs ne sont plus là. Mais nous verrons que Dieu va honorer sa promesse. Et d'une façon incroyable. Et ça, c'est Dieu. Plus ça devient impossible, plus il va montrer sa gloire. Et c'est ce qui se passera. Donc, si tu as des promesses que tu as loupé ton coup, Dieu est le Dieu de la deuxième chance. Et ça, tu dois compter sur ça. Et vouloir vraiment marcher avec lui, mais il faut vraiment avoir un cœur pour ça.
Ça
ne sera pas facile, parce que vous voyez, pour Abraham, ce n'était pas facile. Nous allons voir que Ismaël, ça va encore faire des histoires dans sa famille. Et ça en fera, et ça en fait encore aujourd'hui. Sauf qu'il n'est plus là pour gérer les situations. Mais Dieu est tenace quand il nous promet quelque chose. N'abandonnez jamais ses promesses. Même si vous avez fait des erreurs. Attachez-vous à ses promesses. Et dites au Seigneur, Seigneur, c'est vrai, j'ai fait tout ça. Mais Seigneur, tu es un Dieu d'alliance. Et c'est là où tu verras ce que Dieu fait pour toi. Que le Seigneur vous bénisse.
Nous espérons que cette parole vous a exhorté, édifié et réconforté, et qu'en la pratiquant, la gloire de Dieu se manifeste au travers de vous sur terre. Nous invitons aussi à consulter le site www.enseignemoi.com. Que Dieu vous bénisse. Si vous voulez nous contacter pour d'autres enseignements, appelez-nous au 00 257 22 24 13 39 ou par email mesburundi@yahoo.fr.